Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 janvier. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission, toujours à distance avec Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va très bien et toi? Prêt pour cette nouvelle émission?
Ouais, je suis prêt.
Prêt, évidemment. Et oui, puisque c'est ton reportage qu'on va trouver bientôt, j'allais dire tout de suite, pas tout de suite, mais presque d'ici quelques minutes. Alors, de qui vas-tu nous présenter et de quoi vas-tu nous parler, Andy?
Je vais vous présenter une nouvelle application de VTC qui va vous faciliter la vie pour réserver vos trajets.
Donc à retrouver effectivement d'ici quelques minutes. On va également parler de ce nouveau cycle de conférences proposé par l'Assemblée citoyenne du pays de Cran. Ça démarre demain soir autour du changement climatique, mais pas que, vous l'entendrez. Et puis comme chaque mercredi tous les 15 jours, on va retrouver la chronique UFC que choisir. On parle de vie des artisans aujourd'hui. Et puis on poursuit notre feuilleton auprès de ce lieu d'accueil pour les enfants de l'ASE en situation de handicap. Ce sera ça à retrouver en fin d'émission.
Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Et à Saint-Berthevin, 5 personnes intoxiquées à l'oxyde de carbone.
À la suite du dysfonctionnement d'un poêle dans une habitation cette nuit, les pompiers sont intervenus vers 3h du matin, rue Isaac Newton à Saint-Berthevin. Donc, les 5 personnes de la même famille ont été transportées à l'hôpital de Mayenne et de Château-Gontier. Tandis qu'à Saint-Hélier-du-Maine, un incendie a touché la chaufferie d'une maison cette nuit, là aussi. L'incendie s'est déclaré vers 3h du matin, au lieu dit La Vanière, dans une chaufferie alimentée au fioul tout près d'une habitation. Ces deux occupants ont été transportés au centre hospitalier de Fougères et seront relogés par la mairie.
Et 9% des Mayennais testés positifs depuis le 1er janvier.
Soit 27 000 cas positifs depuis le début de l'année 2022, chiffre donné hier par Valérie Jouet, directrice de l'ARS en Mayenne. Presque 75% de la population éligible a suivi un schéma vaccinal complet. Le taux d'incidence en Mayenne dépasse désormais les 386 cas pour 100 000 et 61 personnes sont hospitalisées à cause de la Covid, dont 4 en réanimation.
Le rapport du médiateur sur l'hôpital de Mayenne communiqué dans quelques jours.
C'est en tout cas ce qu'a assuré Olivier Véran, interrogé hier à l'Assemblée nationale par le député du Nord-Mayenne Yannick Favennec. Le médiateur Daniel Moinard doit rendre un rapport dans le dossier du possible contrat d'engagement entre les hôpitaux de Laval et de Mayenne. Rapport qui se fait attendre mais serait en cours de finalisation selon le gouvernement.
Une autre députée mayennaise visée par une lettre de menace.
Après Yannick Favennec, c'est au tour de Géraldine Bagnier, députée du Sud Mayenne, de recevoir une lettre anonyme d'insultes et de menaces à sa permanence, la visant elle et ses proches. Elle aurait porté plainte au commissariat de Château-Gontier.
Et Anne Hidalgo attendue demain en Mayenne.
La candidate socialiste à l'élection présidentielle va visiter la maison des services au public à Loire-en-Ruillé. Elle devrait aussi rencontrer des élus locaux et elle est ensuite attendue à l'hôpital de Laval pour échanger avec des soignants avant une réunion publique ouverte à tous à 18h30 au théâtre de l'Avant-Scène à Laval.
Et du côté de la culture, près de 40 000 spectateurs à la folle journée en région.
Le festival de musique classique autour de Schubert, on vous en a parlé, a réussi à se tenir pour cette 20e édition le week-end dernier, malgré les conditions sanitaires. Et à Château-Gontier, 850 personnes ont assisté aux différents concerts. On va vous parler, comme Andy vous le disait, d'une nouvelle application mayennaise pour réserver ses trajets. Ça s'appelle Allo VTC Laval.
En effet, chauffeur privé VTC 53, une entreprise créée par Alexandre Lenin, un ancien ambulancier de 36 ans, s'arme d'un nouvel outil pour faciliter les réservations de ses clients. Mais avec la dernière vague de cas Covid et la fermeture des boîtes de nuit, le nombre de voyages a forcément diminué. Il nous explique l'origine de sa société et comment son entreprise s'est débrouillée pour continuer son activité depuis le début de la crise.
L'origine du projet, en fait, c'était un manque de transport au niveau taxi. Beaucoup de gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de taxi de bonne heure le matin ni tard le soir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un système de VTC. Tout d'abord, on a été travailler à Paris et après on est revenu. On est venu sur Laval. On va dire, ça faisait déjà 2 ans. On se demandait si le projet allait bien s'implanter à Laval parce que c'est une petite ville hein, par rapport à une ville comme Paris ou des grandes villes comme Lyon, Marseille ou Nantes. On savait pas, comme tous les gens, ont un moyen de locomotion, ont au moins une voiture. Donc, derrière, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Et pour le moment, on n'a que du positif. C'est soit du Laval-Laval, donc les gens, on va les chercher à leur domicile pour les emmener soit à la gare, soit pour les emmener de la gare à leurs hôtels pour les gens extérieurs, ou les gens, quand les boîtes de nuit sont ouvertes, on emmène les gens en boîte de nuit à partir du jeudi jusqu'au samedi. Hein. Et on les emmène soit au The Vibe Club, Deluxe et La Chamade, et après dans certains restaurants où on a un partenariat comme The Artist qui est basé à Changé.
Le Covid a un impact forcément sur le nombre de voyages.
Tout ce qui est première, deuxième, troisième vague a été... On a réussi parce qu'on a fait beaucoup de grands trajets. On a fait des trajets comme Laval-Montpellier, Laval-Lyon, Laval-Villard-de-Lans. On avait beaucoup de trajets Laval-Paris. Et là, depuis décembre, on a quand même réussi à les moindre parce qu'il y a plus de télétravail. Les gens, je pense qu'ils sont auto-confinés, même si ça n'a pas été un confinement dit par l'État.
Et si vous voulez réserver un trajet, il vous suffit de télécharger l'application Allo VTC Laval, donc la nouvelle application, et sur lequel le prix du trajet sera détaillé, ou alors d'appeler au 06 73 97 25 09. Et on va passer tout de suite, enfin, après la musique, à l'interview. Et la musique, c'est Plastic de Drunk Mums.
Drastic Drunk Memes dans l'AJT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et on va commencer avec une question posée par l'Assemblée citoyenne du pays de Cran. Notre défi aujourd'hui, agir ou subir. C'est un peu le fil rouge de ce cycle de 4 conférences proposées, donc, je l'ai dit, par l'Assemblée citoyenne du pays de Cran. On va parler disparition des haies et forêts, énergie, lien social ou encore production alimentaire. L'idée, bien sûr, c'est de faire réfléchir autour du changement climatique et de ses différentes incidences dans notre quotidien, mais aussi de donner des clés de réflexion, des exemples en tout cas. Et on va zoomer sur ce cycle de conférences avec deux des principaux organisateurs.
Alain Roussard, donc, membre de l'Assemblée citoyenne du Pays de Cran, qui organise donc ces 4 conférences.
Et Julien Gorgetta, également bénévole au sein de l'Assemblée citoyenne et habitant de Cran.
Peut-être présenter rapidement ce que c'est l'Assemblée citoyenne du pays de Cran, comment ça s'est formé et quels sont les grands objectifs ?
Cette association est née en 2014 parce que sur Cran, on constatait qu'il y avait un défaut de débat, il y avait un manque de débat qui se traduisait à plusieurs reprises, par des élections où il y a une seule liste, enfin voilà, tout ça. Et on a voulu, nous, un certain nombre de personnes, on a voulu essayer de relancer le débat. Voilà, c'était l'objectif de départ. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a organisé des réunions, par exemple, sur le fonctionnement de la nouvelle intercommunalité. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une réunion, par exemple, sur le compteur Linky. Tout ce qui pose question aux citoyens, quoi. On essaie sur la transition écologique, on a déjà fait ça aussi. Les gilets jaunes, on a organisé des débats à la suite des gilets jaunes, là. Enfin, voilà, on essaie de s'emparer des sujets qui concernent les citoyens du pays de Cran. Après, ensuite, nous on n'a pas pour prétention de prendre la place des élus, des politiques, mais après, on peut se tenir à leur disposition en disant, ben voilà, on vous amène des idées, et après, c'est toujours à vous de décider, mais en toute connaissance des causes, parce qu'on a remarqué, et on remarque tout le temps, que les élus sont surbookés, courent tout le temps, ils n'ont pas toujours le temps d'approfondir le sujet. C'est un peu l'idée.
Et c'est aussi donc la même idée qui guide un peu ce cycle de conférences autour du changement climatique. C'est un thème qui s'est imposé à vous presque naturellement ?
C'est pas que le changement climatique, même si c'est ce qui ressort un peu de l'affiche sur les différents thèmes. Effectivement, il y a ce point-là qui s'y retrouve, mais on voulait justement, parce qu'on a déjà fait des cycles de sensibilisation et d'information sur le changement climatique. Et là, on a voulu l'élargir sur la biodiversité, sur la santé, sur le lien social. Parce qu'en fait, au vu de la situation globale actuelle, on se rend compte que c'est global et que c'est à différents niveaux qu'il y a un impact sur le changement. Donc du coup, on a voulu apporter 4 conférences. On a eu au début beaucoup plus d'idées, mais après, il faut avoir les moyens et le temps de les construire. La haie, qui est quand même un sujet sur le département et encore plus sur notre territoire, et la forêt, c'est un sujet. Le lien social, c'est un sujet. La manière de produire et de consommer, c'est un sujet, et lié encore une fois sur le changement climatique. Donc, on a voulu plutôt apporter une espèce de vision globale et de montrer qu'il y a des liens entre tout ça et qu'on, si on veut agir et non pas subir, ou bien si on subit, c'est qu'on subit sur l'ensemble de ces impacts et de ces paramètres, quoi. Et que chacun à notre niveau, on peut intervenir et jouer sur limiter notre impact et les effets qui sont liés sur le sujet de ce virus.
Mais alors l'Assemblée citoyenne, elle a quand même aussi, il faut le dire, une sensibilité environnementale aussi, hein. Et donc on s'est réunis là en septembre octobre et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire cette année, quoi, hein, voilà. Et on est parti en fait du livre de Marie-Monique Romain, là, qui est sorti dans ces moments-là, La fabrique des pandémies, 62 scientifiques qui disent, justement, oui, on est parti de là. Attention, si nous continuons à détruire la biodiversité, nous allons devant de problèmes de santé publique majeurs et nous risquons d'entrer dans une ère de pandémie. Ces scientifiques-là identifient 4 paramètres qui conduisent justement hein, pour faire le lien avec la Covid. Il y a un, la déforestation, qui entraîne des catastrophes, la déforestation et la destruction des haies aussi, on peut mettre ça dedans. Il y a l'urbanisation, et notamment la fragmentation plutôt des, c'est-à-dire la création de routes, tout ça, ça a des conséquences assez impressionnantes. L'élevage intensif, voilà, et la globalisation, la mondialisation, etc. Donc, ça favorise les maladies émergentes. Je tiens à préciser que l'idée, c'est pas d'accuser qui que ce soit, hein, on se met dedans, on est tous responsables. Hein. Ça, là-dessus, c'est, moi, je suis pas agriculteur, mais à leur place, je ferais peut-être pareil, j'en sais absolument rien, ce serait prétentieux de dire non, on n'est pas à leur place. Les gens sont dans un système, et je pense que c'est ensemble qu'il faut qu'on réfléchisse pour se mettre autour d'une table et dire, bon, il y a quelque chose qui va pas, comment on fait? Parce que, en Mayenne, là, depuis 1995, il y a 650 km de haies qui disparaissent tous les temps. Et ça continue. Alors là, on fait appel à Jean-Marc Lalose. Jean-Marc Lalose, c'est le monsieur haie du département, hein, c'est un vétérinaire à la retraite, qui anime le collectif Bocage 53, qui est très, très pointu sur le sujet des haies, qui est un collab là-dessus, qui est passionnant aussi. Mais surtout, c'est de redire l'importance de ces haies. Parce que la biodiversité, en fait, c'est une pyramide. Et si on enlève une petite pierre, la pyramide s'affaiblit. On s'en aperçoit pas là, mais il y a un moment donné, tout va s'écrouler. Voilà comment il analyse cette situation-là. Et on a fait appel aussi à quelqu'un de terrain, un agriculteur, qui est Emmanuel Lelièvre, hein, qui est d'Arcenay, qui justement est au sein d'une association qui gère qui valorise le bois, etc. Donc,
l'idée, effectivement, est là, c'est que les constats, ça fait quand même quelques années, pour pas dire des dizaines d'années, qu'on les entend, on les voit de plus en plus. Donc ça peut mettre le moral à zéro, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Et il y a aussi du déni et des gens qui mettent la tête sous le sable. Ça, c'est, mais comme l'a dit Alain, on n'est pas du tout là pour juger ou pour donner les bons ou les mauvais points, mais pour renforcer ces constats en disant que tout est là concrètement. Hein, le changement climatique, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est déjà là, c'est déjà tout à fait visible chez nous, derrière notre porte, derrière nos fenêtres. Donc c'est comme ça. Dans les années à venir, si on ne change rien, on peut craindre des problématique encore plus importante, ce qui est angoissante, et il faut le prendre en compte, même si ça fait peur. Mais à côté de ça, pendant ces conférences, le but aussi, c'est d'essayer de montrer des exemples de ce qui se fait, de ce qu'on peut faire et de comment on peut agir, chacun à notre niveau. Parce que soit on s'en déborde et du coup on fait rien, ou on se dit c'est pas moi, c'est l'autre, ou moi je fais un tout petit peu et c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien, mais on a toujours des petites marges de progrès, et c'est pour ça que chez chaque intervenant, il y aura des propositions, il y a des exemples de gens qui se mettent en place pour replanter des haies. Il y a un collectif là, il y a à peu près quelques mois, qui vient de se constituer pour proposer concrètement qui a besoin d'avoir des plantations de haies et qui est disponible pour le faire. Et ben, les gens se mettent ensemble et le font.
C'est du coup le sujet de la deuxième conférence, autour plutôt de l'énergie et du changement climatique. L'idée, ce sera là aussi d'avoir des exemples concrets, j'imagine.
Oui, sachant que pareil, tous les exemples et toutes les propositions existent depuis des années. On sait très bien quelle feuille de route il faut suivre pour limiter, limiter les consommations d'énergie. Hein. Cette conférence va surtout s'appuyer sur ce qu'on appelle le scénario Negawatt. Donc, pareil, c'est une association qui est constitué depuis plus de 20 ans, qui en est à son cinquième ou septième scénario, qui donne une feuille de route claire et nette à 2050 pour avoir le moins d'impact carbone possible sur le climat, qui est revu tous les 3-4 ans. Et les trois axes de travail et de proposition de ce scénario sont la sobriété, donc consommer de façon plus raisonnable. Ensuite, une notion d'efficacité, donc mieux consommer l'énergie, utiliser chaque énergie avec son potentiel et sa logique propre. Et en troisième lieu, le développement des énergies renouvelables. Le scénario est vraiment basé sur ces trois axes de la sobriété, de l'efficacité et enfin de l'énergie renouvelable. Comme ça, on évite tout un tas de débats on peut pas produire autant de renouvelables qu'aujourd'hui on produit de façon conventionnelle, on va pas planter une éolienne tous les 300 mètres, enfin partir dans des choses comme ça qui diluent complètement la discussion et qui appauvrit même la réflexion. S'il y avait réellement une réelle volonté de vouloir limiter notre impact, c'est d'abord de mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments de façon performante, de façon construite, de façon contrôlée. Il y a des études qui ont montré que si tous les citoyens français faisaient tous les efforts possibles, ils n'agiraient que sur 30% réellement de leur impact. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit les citoyens qui soient motivés et encouragés. Il faut que ce soit les politiques également qui nous encouragent à faire ça et aussi tout le secteur privé. Donc c'est réellement un effort collectif à réaliser pour réussir à faire cette transition.
Donc ça, effectivement, ce sera le thème de la deuxième conférence le 17 février. Vous parliez tout à l'heure de justement aussi les impacts sociétaux et il y a justement le thème de cette troisième conférence qui l'aborde un peu le 3 mars où on lit et la préservation de l'environnement et celle du lien social. Alors ça peut paraître pas forcément évident comme thème de rapprocher les deux comme ça. Pourquoi ce choix a été fait et qu'est-ce qui le recouvre derrière? L'idée, c'est de discuter de quoi?
On a fait appel à Marc Imbert. Marc Imbert, c'est franchement un des spécialistes de la question. Donc franchement, on est très heureux qu'il ait accepté de venir nous traiter de ce sujet parce que c'est bien joli de dire il faut changer ta chaudière, tout ça. Bon, on est dans la vraie vie, hein. Il y a des gens qui, bah oui, par rapport à le prix, il y a des choses quand même qu'on peut pas évacuer d'un revers de la main, hein. Il y a une réalité. Et ce monsieur-là sera là pour nous parler de ça. Alors c'est un théoricien, c'est vrai que c'est un professeur d'économie politique, mais il a un parcours monstrueux. Il a fait des pays et des pays. Il a une expérience incomparable.
Et puis le lien social, on l'a vu quand même depuis 2 ans, comme on le disait tout à l'heure, que tout était lié. Voilà, on exploite plus en plus de ressources, ce qui fait qu'on refait sortir quelques petites bactéries et virus qu'on avait oubliés ou même pas eu. On ne pensait même pas que ça existait. Et du coup, ce petit virus stoppe tout lien social. Enfin, on a déjà oublié qu'il y a 2 ans, en l'espace de 15 jours, tout s'est arrêté en France, en fait. Et il n'y avait plus de lien, on ne se voyait plus, on ne pouvait plus sortir. Enfin, il y a eu un réel… Là, ça paraît un peu loin, mais toutes ces petites conséquences ont fait que socialement, il n'y a plus rien eu. Pendant 2 mois, on ne voyait plus nos familles, on ne voyait plus nos proches, on ne voyait plus nos voisins. Et aujourd'hui, il y a encore des conséquences. Il y a des visages qu'on ne reconnaît pas, il y a des enfants qui n'ont connu que cette vie-là. Enfin, donc ce lien social est quand même complètement lié à ces impacts sur l'environnement.
Peut-être un mot aussi sur cette quatrième et dernière conférence, où là on est plutôt, vous l'avez dit aussi en introduction, consacré à l'alimentation, alors alimentation, enfin production alimentaire à la ferme, et puis aussi comment choisir ses aliments avec, je crois, quelqu'un du FC Que Choisir.
Tout à fait, oui. Voilà, c'est aussi mettre en avant des gens qui vivent là, ce en quoi on croit. Justement, et qui le vivent très bien, donc ça existe. Voilà, c'est s'appuyer sur Jean-François Gommet, qui est un agriculteur mayennais, hein, Saint-Quentin-les-Anges, qui n'a pas son pareil pour expliquer comment il conçoit cette façon de travailler qui préserve au maximum l'environnement. Voilà, donc c'est bien aussi de donner envie. De donner la parole à ces gens-là qui donnent envie et qui c'est tout sauf un retour vers la bougie, hein. Ça n'a rien à voir. Nous, on veut que les gens ils sortent avec le sourire, quoi. Et s'il y en a 15 sur 10 qui y croient, je crois qu'on aura déjà gagné l'objectif. Et puis un membre de l'UFC Que Choisir aussi, il faut donner la parole à tout le monde, c'est important. On donne de l'information en même temps. L'idée globale de toutes ces conférences là, c'est que ça n'en reste pas là. Avec tout ce qui sera dit, il y a moyen de créer des groupes de travail et de se mettre autour d'une table ensemble.
On se rend pas compte de la force de la population et d'un collectif qu'on peut avoir sur des décisions. On croule tous sous les infos, sous les contraintes, sur l'ordre de marche, c'est ça. Mais non, si on est plusieurs à se dire, bah non, en fait, nous, on préférait faire comme ça, ben on est plus nombreux et on peut y arriver.
Et si ça vous parle, en tout cas, l'entrée est libre pour chaque conférence et la première aura lieu demain soir à 20h à Cran à la salle Pantini autour de la disparition des haies et des forêts avec cette question là aussi, quelle valorisation pour le bois ? Ça, ce sera évidemment demain soir à Cran.
Et on va passer à la chronique UFC que choisir, mais juste avant, on va écouter Skyline de FKJ. Ocean, traveling in slow motion, paddling with my question, early morning with the sun, not yet burning innocent, I try to be a good son, myself 100%, oh. De FKJ French Kiwi Juice dans la JT du local sur l'autre radio. Et c'est l'heure de passer à notre chronique UFC que choisir, pile dans l'actualité aujourd'hui. Et vous êtes d'ailleurs particulièrement concernés hein, si vous faites des travaux chez vous en ce moment, puisque vous le savez, le prix des matières premières augmente avec un risque que la facture soit bien plus élevée à la fin. Devis, engagement auprès des artisans, comment ça marche ? Réponse dans cette chronique.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, on le rappelle, vous êtes le président du FC Que Choisir de la Mayenne et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler des devis avec les artisans et de la hausse des prix. Alors, quelles sont les règles ?
Bien, tout d'abord, dès que l'on veut faire des travaux chez soi, il faut s'adresser à un professionnel déclaré au registre du commerce, ayant un numéro SIRET et, au minimum, une assurance responsabilité civile et complétée, si nécessaire, par une assurance décennale. Cela se vérifie en allant sur le site société.com ou sur le site Infogreffe. Ensuite, il doit faire un devis que vous signerez avant son intervention. Le devis est obligatoire s'il s'agit de travaux de dépannage ou de réparation. Dans d'autres cas, il est facultatif, mais doit être établi dès que le consommateur le demande.
Et que doit-il y avoir sur ce devis ?
Alors, des devis, il y a deux types. Il y a les devis à forfait, c'est-à-dire qui donnent un prix global, et ou alors sur série de prix, c'est-à-dire que chaque élément est estimé et que le prix global à payer est la somme des prix des différents éléments. Mais dans les deux cas, le devis doit être suffisamment détaillé pour que le consommateur puisse vérifier et la qualité de la prestation et des matériaux et comparer avec d'autres artisans. Par exemple, la marque, le type, les références, les quantités sont indispensables dans tous les cas.
Et vous, quel type de litiges vous sont soumis à l'association ?
Alors, j'ajouterai d'abord que toute modification de la prestation doit faire l'objet d'un avenant signé par le consommateur et l'artisan. Ne pas oublier qu'il s'agit d'un contrat et qu'un contrat ne peut être modifié qu'avec l'accord des deux parties. Et justement, les litiges proviennent le plus souvent d'un descriptif incomplet permettant des interprétations divergentes et de modifications de prestations n'ayant pas fait l'objet d'un avenant. Actuellement, les problèmes viennent de la hausse des prix des matériaux, les artisans ne voulant ou ne pouvant pas effectuer les travaux prévus au prix indiqué. Il y a éventuellement plusieurs mois. La question est donc la suivante. J'ai signé un devis en juillet 2021 et mon artisan me dit qu'il y aura une augmentation de 5%. Et que faire ? En théorie, l'artisan s'est engagé par contrat à faire les travaux à un prix fixé. Soit il fait un avenant que vous validez, et alors tout est en ordre. Soit il fait les travaux sans rien dire et envoie une facture majorée, et vous pouvez ne payer que le montant du devis. Mais s'il ne vient pas faire les travaux, tant que vous n'avez pas accepté les nouveaux prix, et que faire ? Vous pouvez annuler la commande après mise en demeure de l'artisan de faire les travaux. Et la loi dit que vous pouvez l'attaquer en justice pour non-respect de ses engagements et demander des dommages et intérêts. Mais, d'une part, cela va demander du temps, et d'autre part, il vous faudra demander un nouveau devis à un autre artisan, qui risque, au moins, d'être au nouveau tarif, si ce n'est plus. Notre conseil est donc de prendre en compte l'évolution des prix et de négocier le montant de l'augmentation, sachant qu'un bon arrangement est toujours préférable à un mauvais procès.
Et les artisans indiquent souvent devis valable 6 mois. Quelle est la valeur de cet engagement ?
Alors, ça veut tout simplement dire que si le devis n'est pas validé par le client dans le délai de 6 mois qui suivent la date d'établissement du devis, ou d'une autre durée, l'artisan n'est plus tenu de respecter le prix indiqué. Et alors, s'il reçoit le devis signé après ce délai, il doit immédiatement faire savoir au client que le délai de validité du devis est dépassé et doit transmettre un nouveau devis pour signature. Notons qu'un délai de livraison doit aussi être indiqué sur le devis.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ces précisions. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où, bien sûr, nos auditeurs mayennais auraient besoin de vos services ?
Alors, l'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Et nous pouvons aussi vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne ou Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel.
Ça y est, vous avez donc toutes les infos. Si jamais vous n'avez pas eu le temps peut-être de noter ou en tout cas de bien tout intégrer, sachez que cette chronique est à réécouter en podcast sur notre site l'autreradio.fr et puis une nouvelle chronique vous attend dans 15 jours. On passe à notre feuilleton autour de cette maison d'agriculture d'accueil pour les enfants à Laval cette semaine, pour des enfants avec des pathologies psychiques suivies par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Une convention pour 10 places d'accueil temporaires a été renouvelée, signée par le département de la Mayenne et l'association Domino Assistem, qui emploie des professionnels en intérim, professionnels qui s'occupent de la prise en charge du quotidien de ces enfants, pour leur donner ou redonner des repères. Explication avec Marie-Odile Conan, chef des dispositifs de Domino Assistem sur Laval.
Alors, on est vraiment sur un rôle éducatif et de soins. Chaque enfant ici a un parcours de soins spécifique. Ils vont à l'hôpital de jour, ils sont pris en charge à l'ITEP, ils vont au CMPP, ils ont leur entretien avec les psychologues, les pédopsies. Et nous, on est leur lieu de vie. Donc, les éducateurs incarnent des fonctions parentales. Voilà, ils incarnent cette fonction parentale. Ils sont dans l'accompagnement du quotidien, la conception de repas, l'accompagnement au lever, l'accompagnement au coucher, l'accompagnement à l'hygiène. Ils garantissent ce que les parents des enfants auraient fait si les enfants étaient chez eux. Et en plus de ça, il y a cette dimension en caractère thérapeutique que nous, on veut mettre dans l'accompagnement des jeunes à travers des ateliers d'expression, à travers des espaces d'échange. J'ai une art-thérapeute qui intervient pour quatre jeunes de manière individuelle, donc tous les samedis. Ensuite, on a effectivement une intervenante où les jeunes sont en train de mettre des mots sur leurs mots. Donc le projet, c'est de les écouter, de les entendre sur comment ils parlent d'eux, comment ils parlent de leur parcours, comment ils parlent des difficultés et comment ils s'expriment par rapport à ça, et de leur proposer de pouvoir mettre ça en slam ou en rap ou dans la manière dont ils souhaiteraient de pouvoir l'exprimer. Et ensuite, il y a un autre projet qui est associé au slam, c'est de faire une expérience sociale. On est sur une dimension cinématographique, mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est une surprise pour les jeunes. Nous, on a un travail qui est aussi d'apprendre aux jeunes de vivre avec leur pathologie. On est sur de la psychose infantile. Notre objectif de travail, notre mission, c'est d'apprendre aux jeunes à vivre avec sa pathologie. Et ça se fait à travers le quotidien du jeune, en posant des rituels, en l'amenant à s'exprimer quand les choses ne vont pas bien, à dire les choses et non pas à les manifester. Donc tout ce qu'on fait, la majorité des choses qu'on fait a un caractère thérapeutique. J'ai un exemple bien spécifique en tête. J'ai vu des progrès et j'ai vu aussi des régressions. Donc nous, on a un jeune qui avait beaucoup, beaucoup progressé dans la gestion de ses émotions, dans la maîtrise de soi. Et puis, il s'est passé des choses au niveau de l'établissement. Il y a eu une situation de crise qui, je pense, a impacté le jeune. Et aujourd'hui, il est en train de remettre en place son mode de fonctionnement d'avant. Donc oui, il y a des progrès, mais de temps en temps, il peut y avoir aussi des retours en arrière. C'est ça l'éducation. On recommence de manière constante, mais à un moment donné, ça porte ses fruits. Alors moi, je dis toujours qu'on fait un métier qui est très ingrat, les éducateurs, parce qu'on ne voit pas le fruit de notre travail. Alors moi, comme j'ai 30 ans de carrière derrière moi, j'ai rencontré des jeunes que j'avais accompagnés quand ils étaient plus jeunes. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes et de voir ce qu'ils ont fait de l'accompagnement qui leur a été proposé. Mais c'est vrai que là, ici, on est aussi dans la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est imprévisible.
Et justement, ces éducateurs, on va les entendre dans notre épisode demain jeudi. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui mercredi. Merci Andy, à demain.
À demain Marie.
On se retrouve effectivement demain à 12h15 pour une nouvelle émission. Mais vous ne partez pas puisque les émissions, elles, se poursuivent sur l'autre radio. Vos émissions préférées. Comme tous les mercredis à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi ce soir à 21h de Déclectic Jazz. Et nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée à tous.